Des pieds nickelés à Fifi Brin d'Acier, de Tarzan à Lucky Luke, de la Mare au Diable à Tous à Poil, pourquoi la littérature enfantine déchaîne-t-elle en France autant de polémiques ? De vive voix.
Chantal Leroux.
Marine Planche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice au Centre National de la Littérature pour la Jeunesse et commissaire de l'exposition « Ne les laissez pas lire !» qui se tient à la BNF François Mitterrand à Paris jusqu'au 1er décembre. Thierry Magnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, éditeur et vous avez publié en 2012 un livre qui s'est attiré les foudres de la ville de Paris, « Le dictionnaire fou du corps » de Cathy Coupry. Marine Planche, l'exposition que vous avez conçue présente quelques 120 livres, revues, illustrations, illustrés, bandes dessinées pour enfants qui ont été critiquées, attaquées ou interdites, voire censurées depuis 1904. Pourquoi la littérature enfantine a-t-elle provoqué autant de polémiques depuis plus d'un siècle ?
C'est la question qu'on a voulu se poser justement en travaillant et en montrant cette exposition à la Bibliothèque nationale, d'essayer de comprendre pourquoi ces livres-là suscitaient autant de réactions de la part des adultes, puisque ce ne sont pas les réactions du public destinataire, en l'occurrence les enfants ou les jeunes qui sont ici interrogés, mais bien celles des parents, des responsables politiques ou éditoriaux ou autres. Donc pourquoi ? J'ai pas forcément toujours complètement les réponses. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus de poser la question. Et l'idée de l'exposition, en tout cas, c'était de montrer ces livres. Alors, d'en montrer des extraits, en tout cas, puisqu'on est dans une exposition qui montre des reproductions et non pas des originaux. Seulement quelques livres sont proposés au public pour qu'ils les feuillettent. Ça, c'est toujours un petit peu une petite réserve. Mais voilà, de les montrer en tout cas et de les montrer dans une perspective historique, puisque vous avez cité 1904, on part avec le personnage de l'abbé Bethléem au tout début de la période, voilà, et on arrive jusqu'à la période la plus contemporaine.
Voilà, alors l'abbé Bethléem va partir en croisade contre les lectures qu'il juge nocives pour les familles catholiques.
Oui, c'est un abbé qui a été bibliothécaire au tout début de sa carrière à Cambrai et qui, à cette occasion-là, s'est rendu compte que dans ce qui était disponible dans la littérature, puisque c'est ça son objet, hein, c'est vraiment la fiction, il y avait des choses qui pouvaient être, à son sens, néfastes, dangereuses pour l'âme des lecteurs et des lectrices, donc en particulier les plus vulnérables dans son esprit que peuvent être les femmes et les enfants, bien entendu.
Et alors son guide, qui s'appelle Roman à lire, roman à proscrire, va connaître un incroyable succès. Ça va devenir ce qu'on appellerait maintenant un best-seller.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un livre qui est édité chez un tout petit éditeur à Cambrai au départ et qui va connaître de multiples éditions et qui va même devenir une revue périodique qui s'appelle la Revue des Lectures par la suite qui, dans les années 30, arrive jusqu'à plus de 15 000 abonnés donc et qui est diffusée très largement, y compris en Belgique, au Québec, etc. Donc,
mais ce succès va être insuffisant aux yeux de l'abbé qui va franchir une étape, il va se mettre à lacérer publiquement les journaux licencieux qui sont vendus dans les kiosques parisiens.
C'est quelqu'un qui a un certain sens de la communication, donc il fait vraiment des mises en scène, hein, il prévient toute la presse et il va sur les Champs-Élysées, il va dans un kiosque et il saisit tout ce qu'il considère comme impie et il déchire ses journaux en prenant bien soin de se faire photographier. Voilà, donc il va avoir des procès pour ces actions-là, mais c'est une manière de faire connaître son combat auprès de l'opinion.
Alors j'ai cité La Mare au Diable tout à l'heure, j'aurais pu ajouter La Petite Fadette. George Sand faisait partie des auteurs proscrits par l'Église catholique et donc par l'abbé Bethléem, même s'il lui reconnaît quand même des talents littéraires.
Oui, c'est ce qui est intéressant peut-être dans le personnage, donc qui a été beaucoup étudié en fait par l'historien Jean-Yves Mollier, dont je me suis beaucoup inspirée des travaux pour l'exposition. C'est que c'est aussi un critique littéraire. C'est ce qui est intéressant aussi dans cette démarche de censure, c'est qu'elle c'est aussi des lecteurs, donc qui vont aller lire les livres, qui peuvent en dire des choses. plus ou moins intéressante, mais en l'occurrence pour la Bethléem, qui avait beaucoup de travers par ailleurs, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement xénophobe, antisémite, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui apprécie la littérature, et donc pour George Sand, il est un peu tiraillé entre ses obligations d'homme d'église, elle est à l'index, donc voilà, c'est forcément un mauvais auteur, mais dans un autre sens, il considère qu'elle a des qualités littéraires.
Thierry Magnier, cet abbé a eu une influence redoutable puisqu'il a inspiré la loi, la fameuse loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Vous éditez des livres pour les enfants, pour les adolescents. Est-ce qu'il vous paraît normal que l'État contrôle les lectures des enfants, ou est-ce que cette loi est un carcan ?
Non, c'est pas une... Je dirais non, parce qu'il faut pas, enfin, c'est parfois ridicule d'interdire des choses comme elles sont pas interdites, c'est juste des conseils qu'on nous donne. Maintenant qu'il y ait une vigilance, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une instance qui puisse départager des opinions, pourquoi pas. Le problème, c'est que, malheureusement, les livres qui sont taclés, j'en ai beaucoup qui sont taclés par cette commission, ce sont juste des recommandations, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas obligé d'exécuter ce que nous demande la commission.
Mais ces recommandations ont un poids, puisqu'elles sont reportées dans les médias, elles nourrissent les polémiques, elles alimentent les polémiques. Et du coup, ça devient peut-être un peu difficile pour le livre en question, le livre ciblé.
Oui, bien que très très souvent, vous avez des, enfin, quelquefois, ça fait vendre davantage de livres. Alors, c'est pas non plus.
Ce sont les deux aspects.
Quelquefois,
les deux,
par exemple,
côté
si
de la médaille.
Je prends tout ça poil, on avait vendu un petit millier, et après cette censure, enfin cette censure, cette espèce de levée de bouclier sur ce livre, on a vendu plus de 40 000. Donc, mais en fait, si on fait des livres, on fait pas des livres pour... Moi, je suis ravi que beaucoup de mes livres soient dans cette exposition-là, parce que ça. Mais à la fois, c'est quand vous recevez une lettre comme ça, c'est une lettre quand même estampillée ministère de la Justice, c'est recommandé. Vous voyez, ça fait quelque chose. Et là, ça nous met dans une position. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que je pense que tout éditeur, que ce soit mes éditions ou d'autres encore, à aucun moment, je ne crois pas, ni un auteur ni un éditeur va s'amuser à faire un livre pour défrayer la chronique. Et pour, on s'adresse à des enfants, à des adolescents, avec un professionnalisme, avec des gens qui savent ce qu'ils écrivent, ce qu'ils font. Et on prend une responsabilité, on a une politique éditoriale. C'est vrai qu'on traite des sujets qui peuvent déranger, mais on n'est pas dans un monde de bisounours.
Alors, l'article 2 de cette loi dressait une liste de ce que vous appelez les 7 péchés capitaux. Donc, c'est sur cet article 2 que s'appuyait cette commission pour émettre des recommandations.
Alors je voulais juste dire par rapport à ce que on disait juste avant, c'est que les polémiques aujourd'hui, elles naissent assez rarement de l'action de la commission. Le cas de Tous à poil que citait Thierry Magnier tout de suite, la commission n'avait rien trouvé à redire à ce livre-là.
Là, donc, c'est la ville de Paris, hein, il faut préciser, peut-être c'est la ville de Paris qui avait...
Non, le Tous à poil, c'était Copé.
Oui, on va revenir, d'accord.
C'est
oui.
Copé.
Voilà,
ça,
donc
c'était politique.
Encore un autre livre.
C'était un autre... Pour le dictionnaire Fou du Corps, oui, c'était la ville de Paris.
Donc Tous à poil, c'est venu des réseaux sociaux, c'est venu de...
Non, c'est Jean-François Copé qui avait... c'était en 2014, il a montré ce livre-là à l'occasion d'une émission du grand jury RTL Le Monde pour dénoncer le fait que ce livre soit, d'après lui, recommandé par l'Éducation nationale, et donc s'insurger contre le fait qu'on puisse
montrer des corps,
montrer
nus.
Des corps nus.
Alors justement, on va écouter Jean-François Copé.
Ça vient du Centre de documentation pédagogique, ça fait partie de la liste des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire. À poil la maîtresse, vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. À poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président, directeur général. Bah oui, bien sûr. Il y a un moment où il va falloir qu'à Paris, on atterrisse un petit peu sur ce qui est en train de se faire dans ce pays. Et le rôle des responsables de l'UMP que nous sommes, c'est maintenant de dire « ça suffit ».
Voilà, Jean-François Copé, président de l'UMP à l'époque, et qui dit des contre-vérités.
Ah, complètement. Enfin, si je peux me permettre, d'abord, ce livre n'était pas du tout dans la liste de l'éducation nationale. Je crois qu'il avait de très mauvais conseillers. Il n'avait pas lu le livre jusqu'au bout, je pense. Et surtout, la critique, c'était de montrer effectivement de l'autorité nue. Or, il s'agissait de personnes qui retiraient leurs vêtements pour aller se baigner sur une plage naturiste. Et c'était pour montrer.
Et le regard se voulait humoristique.
Oui, bien sûr, humoristique. Et puis, surtout, montrer aux enfants que les corps sont différents, que c'est ça qui est important. Un corps, c'est, voilà. C'est, on se construit avec ça, on connaît son corps, connaître le corps des autres, une vieille dame, une autorité, effectivement, mais on est tous foutus pareil.
Alors, on est frappé. Oui, vous vouliez rajouter, Marie.
Je voudrais citer une parole que j'ai entendue quand on avait, dans l'idée de cette exposition, au dernier Salon du Livre de Paris, on avait organisé une battle, une rencontre entre deux classes, une classe de collégiens et une classe de lycéens, qu'on avait fait discuter de certains livres, pour, contre, etc., dont le dictionnaire Fou du corps. Et j'ai beaucoup aimé la réponse, donc ils n'étaient pas du tout d'accord sur certaines choses, la réponse d'une collégienne, je crois, je ne sais plus si c'était une fille ou un garçon, je crois que c'était une petite fille, qui a dit, mais à qui les lycéens disaient non, mais ce n'est pas pour vous ce livre-là, c'est pour les grands, etc. Elle disait, mais nous aussi on a un corps.
Oui, ben voilà. Voilà, la réponse est là, bien sûr.
Voilà. Ça paraît évident quand on l'entend.
Alors, on est frappé aussi en parcourant l'exposition par le nombre de bandes dessinées, de Tarzan à Boule et Bill, en passant par Lucky Luke, qui se sont retrouvées sous le feu des critiques. Même le journal de Mickey en 1934. Qu'est-ce qu'on leur reprochait ?
Alors, ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition et qui est assez connu hein, par tous les gens qui ont travaillé sur ce sujet-là, c'est que la première cible des membres de la commission de surveillance instaurée donc par la loi de 49, mais également des critiques énoncées auparavant, c'est la bande dessinée. C'est vraiment ce qui, pour tout le monde quasiment, à ce moment-là, est considéré comme de la mauvaise lecture pour les enfants, pour des raisons assez... nombreuses, hein, qui sont des raisons d'ordre moral. Hein. On considère qu'il y a trop de bagarres, que les corps sont un peu trop dénudés. Hein. Ça va être le cas de Tarzan, les héroïnes féminines aussi. On montre dans l'exposition Sheena, reine de la jungle, qui est une espèce de Tarzan au féminin, qui est pas très habillée non plus. Les personnages de super-héros en maillot collant, ça non plus, ça ne plaît pas tellement. Et puis, il y a aussi des raisons plus esthétiques, en réalité, que l'on voit quand on regarde ces discours. La couleur qui apparaît criarde, violente. On considère que pour les enfants, il faut des couleurs pastel, hein, voilà, qui sont moins agressives pour les yeux. Et puis même le rapport entre l'image et le texte. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est que ce qui prévaut, c'est le texte. Ce qui est noble, c'est le texte. Et donc l'image doit être subordonnée au texte, elle doit l'illustrer. Dans la bande dessinée, c'est plutôt le rapport inverse. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est considéré comme non éducatif.
Et alors on a évoqué tout à l'heure la croisade des milieux catholiques contre plusieurs illustrés, entre guillemets, comme on les appelait à l'époque. Mais ils n'étaient pas les seuls à s'insurger. Pourquoi est-ce que cette presse ne plaisait pas non plus aux milieux communistes ?
Parce qu'en fait, elle plaisait à personne. Je pense que
elle venait des États-Unis.
Et elle venait des États-Unis. Donc ça, c'était il y a un anti-américanisme qui s'exprime notamment juste après-guerre. Hein. On commence les débuts de la guerre froide dans les années 50. C'est assez fort cette dimension-là. Donc effectivement, il y a des raisons politiques qui l'expliquent. Voilà. Et puis après
Et vous citez Georges Sadoul, par exemple.
Oui, Georges Sadoul, il a publié une petite brochure qui s'appelle « Ce que lisent vos enfants », qui est une analyse de la presse illustrée, donc... dans les années 30, et effectivement il explique qu'il ne faut pas que des réactionnaires étrangers s'emparent du cerveau de nos enfants. Donc il y a vraiment cette idée de protéger ou de transmettre en tout cas des valeurs qui soient importantes. Sadoul, il est rédacteur en chef de Mon Camarade, donc une revue pour la jeunesse communiste. Donc l'idée de proposer aussi quelque chose qui soit de bonne qualité en direction des enfants avec un bon contenu idéologique.
Au début, tu te colles le visage au miroir qui te parle, qui te dit qui tu es. À cet instant précis, tu te vois à la loupe, tu te vois, tu redoutes ton visage, ton image, ton reflet. Et puis l'instant d'après, tu te dis, j'ai changé, tu te penches, tu te passes la main pour vérifier sur ta peau qui chiale, sur ta peau trop pâle, qui se creuse, qui te blesse. Et là, tu encaisses. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Tu sens que tu n'es plus la même. Tu sens que tout part quelque part, mais trop tard, c'est ce sentiment qui te bouffe, qui t'étouffe. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Tu sens que tu n'es plus la même. Tu sens que tout part quelque part, mais trop tard, c'est ce sentiment qui te bouffe, qui t'étouffe. Tu restes bloqué au reflet qui t'obsède. Tu restes figé, la vérité malmène. Tu restes seul, tu ne veux pas partager. Tu restes celle qui voudrait oublier. Tu veux toujours croire, tu veux toujours voir l'éternelle jeunesse, l'éternelle ivresse, l'éternelle beauté, l'éternelle jouvence, l'éternelle gaieté. Mais là, tout va changer. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Tu sens que tu n'es plus la même. Tu sens que tout part quelque part, mais trop tard, c'est ce sentiment qui te bouffe, qui t'étouffe. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Tu sens que tu n'es plus la même. Tu sens que tout part quelque part, mais trop tard, c'est ce sentiment qui te bouffe, qui t'étouffe. Les autres te font coucou derrière la vitre. Tu vois bien, ils font coucou, tu les évites. Tu ne te retournes pas, tu as peur de les décevoir. Tu as peur devant ton miroir. Je te parle, je me parle. Et tu jettes le miroir devant toi, et tu jettes le miroir qui éclate. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Tu sens que tu n'es plus la même. Tu sens que tout part quelque part, mais trop tard, c'est ce sentiment qui te bouffe, qui t'étouffe. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Tu sens que tu n'es plus la même. Tu sens que tout part quelque part, mais trop tard, c'est ce sentiment qui te bouffe, qui t'étouffe.
Cet instant, extrait du nouvel album éponyme de la Grande Sophie sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie de Marine Planche, commissaire de l'exposition Ne les laissez pas lire, qui s'est ouverte hier à la BNF François Mitterrand à Paris, et de l'éditeur et écrivain Thierry Magnier. Marine Planche, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après mai 68 dans le monde de l'édition pour la jeunesse?
Je pense, oui, qu'on peut considérer que c'est un moment de rupture dans l'édition pour la jeunesse, en particulier dans l'album, mais pas seulement. Alors, c'est pas forcément exactement mai 68, c'est un tout petit peu après que de nouveaux livres et de nouvelles formes vont apparaître dans l'édition pour la jeunesse, de nouveaux éditeurs également. Mais oui, on voit clairement apparaître des choses entièrement nouvelles.
Thierry Magnier, on n'a plus jamais écrit de la même manière pour les enfants et les adolescents après mai 68?
On a écrit peut-être différemment, et je pense qu'on a tout d'un coup pu parler de certains sujets qu'on n'abordait pas avant. C'est-à-dire qu'on s'est permis tout d'un coup de parler de choses, la société évoluant, les divorces, les choses qu'on pouvait pas parler avant, sont devenues des choses courantes dans la littérature jeunesse.
Alors, dans cette exposition, il y a une tribune étonnante signée Françoise Dolto. Elle l'a écrite dans l'Express en décembre 72. Littérature enfantine, attention, danger. C'est une tribune qui a fait beaucoup de bruit. Expliquez-nous, Marine Planche, pourquoi elle a fait autant parler d'elle, cette tribune?
Alors, je pense qu'elle a fait autant parler d'elle parce que déjà, Françoise Dolto, c'était quelqu'un d'extrêmement influent, hein, qui avait une position,
l'idée qu'on avait de l'éducation des enfants,
voilà, et puis qui était une autorité en matière de d'éducation et de psychologie enfantine. Dolto, c'est la cause des enfants, donc vraiment le porte-parole des enfants en quelque sorte. Et en réalité, donc, dans cette tribune, elle va dénoncer, avec un vocabulaire et des expressions extrêmement fortes, certains livres pour enfants, donc en particulier les livres de François Ruy Vidal, qui lui avait envoyé quelques-uns d'un jeune éditeur, donc post-68, hein, dont on parlait juste avant, qui fait des livres entièrement nouveaux, avec des images qu'on n'a jamais vues, avec des thèmes qu'on n'a jamais vus. Par exemple, sur la question de l'éducation, il y a un livre qui s'appelle « Sur la fenêtre, le géranium vient de mourir », qui est une dénonciation assez forte de l'école. Qu'est-ce que c'est que l'école? Qu'est-ce que c'est que l'autorité des professeurs? Et comment ça peut détruire la liberté d'un enfant et ce qu'il est à l'intérieur de lui. Voilà. Et donc il lui avait envoyé ses livres vraiment naïvement en lui demandant son avis, sachant que lui avait été instituteur, donc il avait aussi cette dimension de la pédagogie à l'esprit. Et Idolto répond donc par cette tribune directement dans l'Express où elle dénonce ses livres en considérant qu'ils sont non seulement mauvais, mais elle reconnaît
elle
emploie, des qualités esthétiques.
Elle emploie le mot de génocide.
Voilà. Elle parle
pour l'imaginaire
elle
des
dit
enfants.
Peut-être, alors sur un mode interrogatif, oui. Mais quand même, peut-être s'agit-il d'une tentative de génocide au niveau de l'imaginaire d'une certaine classe d'enfants. Elle dit que ces livres-là s'adressent en gros aux familles cultivées. Et que donc, c'est la volonté d'atteindre cette classe sociale-là à travers ses enfants. Ce qui est quand même une attaque d'une grande violence.
Thierry Magnier, l'éditeur que Françoise Dolto critiquait, François Ruy Vidal,
qui reste un ami d'ailleurs,
déclarait en 73, il n'y a pas de couleurs pour enfants, mais il y a les couleurs. Il n'y a pas de graphisme pour enfants, mais il y a le graphisme. Il n'y a pas de littérature pour enfants. Mais il y a la littérature. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Ah bah, complètement. Moi, de toute façon, que ce soit Ruy Vidal, Arlene Quist, plus tard Christian Bruel, etc., ce sont un peu mes pères dans cette. Même si je suis pas toujours d'accord avec eux, c'est vraiment là où j'ai puisé beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, bien sûr, oui.
Alors, j'en ai parlé un peu trop vite tout à l'heure. Vous avez dû affronter la ville de Paris en 2012 quand vous avez publié le Dictionnaire fou du corps de Cathy Coupry. Les médias vous ont soutenu. Est-ce que vous avez eu gain de cause? Finalement.
Oui, mais ça c'est très vite d'ailleurs, très très vite. Mais c'était au départ une espèce de chose bizarre d'une éducatrice de jeunes enfants qui n'a pas voulu. Ce livre avait été choisi par une commission pédagogique, etc., pour travailler sur ce livre parce qu'il trouvait un intérêt de justement parler du corps, et une jeune femme a décidé de ne pas le montrer aux enfants avec lesquels elle travaillait. Ce qui fait que la chef a dit bon, on retire ce bouquin, et puis c'est monté de plus en plus haut jusqu'à entendre dire et voir écrit surtout des hautes instances mettez ce livre sous clé. Et ça m'a fait quand même bondir. C'était assez terrible.
Alors ça, c'était en 2012. Brièvement, Marine Planche, est-ce que le climat autour de la littérature enfantine est aujourd'hui plus apaisé, ou est-ce que les réseaux sociaux alimentent les polémiques?
J'ai pas l'impression que ce soit plus apaisé. Moi, j'ai l'impression au contraire que, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai proposé de faire cette exposition, c'est que il y a des polémiques aujourd'hui aussi qui s'enflamment avec très très vite en fait sur certains livres qui vont être mis au pilori régulièrement. Et c'est vrai quand là j'étais en train de préparer l'exposition ces derniers mois, ces dernières années, à un moment j'ai eu l'impression que tous les jours on trouvait quelque chose de nouveau, donc c'est assez troublant.
Si je peux me permettre, les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que on s'enflamme en quelques secondes à interdire un livre qui vient de sortir, alors que 90% des gens ne l'ont pas lu, et cette espèce de la population qui décide tout d'un coup que ce livre ne doit pas exister, et ça c'est très très dangereux.
Alors aujourd'hui, c'est mercredi, et comme tous les mercredis, jour des enfants, nous avons à présent rendez-vous avec Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Inutile de vous mettre martel en tête, aujourd'hui la puce reçoit Julien Soulier et revient justement autour de cette expression « se mettre martel en tête ». Et nos apprentis linguistes, ils en pensent quoi de cette expression? On les écoute tout de suite.
C'est peut-être que tu lis un livre où le personnage principal c'est Martel et tu l'as dans la tête.
Ça pourrait aussi être que tu veux toujours être au-dessus des autres, toujours être en tête. Par exemple, dans la course, tu vas dire « Ils ont triché, ça se fait pas, c'est moi qui devrais être en tête. »
Moi, je pense que ça veut dire se croire immortel et invulnérable, et en fait, pas du tout, en fait.
Avoir mal à la tête, avoir la tête qui tourne.
Un jour, j'ai vu un film, c'est Martel, c'est une personne qui a des mauvaises intentions. Avoir Martel en tête, c'est être
un peu maudit.
Martel, peut-être tu es pas gentil et toi c'est comme si t'étais Martel, donc tu fais plein de bêtises.
C'est toujours être énervé pour rien.
On regarde un film d'horreur et comme le film d'horreur il faisait peur, on garde dans la tête.
C'est avoir tout le temps quelque chose dans la tête qui reste coincé ou tu peux pas l'enlever, comme si tu pensais qu'à ça.
La puce à l'oreille, ta-ta-ta-da.
Alors, Julien Soulier, on est maudit quand on se met Martel en tête ou on est en tête de peloton. Qu'est-ce que vous pensez des propositions?
C'est toujours très drôle et assez bien trouvé, hein, même si c'est pas tout à fait ça. Mais ils sentent quand même, hein, ils sentent qu'il y a quelque chose de cette expression.
En tout cas, c'est
là,
dans la tête.
C'est dans la tête, effectivement.
Donc, quand c'est dans la tête, on a du mal à s'en défaire.
Exactement, il y a un petit peu de cette idée-là. Donc, se mettre Martel en tête, c'est tout simplement, j'allais dire, se faire du souci. C'est une expression qui est apparue.
Se tourmenter,
se faire du souci. Se faire des cheveux blancs, comme on dit aussi parfois. Et c'est une expression qui date à peu près du 18e siècle. Alors, est-ce que vous avez un Marc dans votre entourage? Eh bien,
oui.
S'il s'appelle Marc, en latin, Marcus, ça veut dire le marteau. Voilà, donc je ne sais pas comment il va le prendre, mais en tout cas, Marcus en latin, c'est le marteau, et puis il avait un diminutif, donc c'était Martellus, le petit marteau. Et puis ce Martellus, donc c'est celui qui a donné au Moyen-Âge notre marteau français, et via l'italien, donc il a fait un petit crochet par l'Italie.
Martello.
Au XVIe siècle, donc en italien, Martello signifiait tout simplement jaloux. Et puis on a repris ce sens-là via l'italien. Donc mettre Martel à quelqu'un, c'était le rendre jaloux. Donner Martel, c'était la même chose. Et puis avoir Martel en tête, à l'époque, c'était donc avoir de la jalousie dans la tête.
Parce qu'on imagine bien en même temps ce marteau qui martèle. Exactement. Et qui fait donc vraiment, qui donne des coups et qui donc fait vraiment
exactement,
mal à la tête,
si vous
et qui
êtes
obsède.
Jaloux de quelqu'un par amour, vous imaginez dans la, enfin, ce serait plutôt dans le cœur, mais
ouais,
même dans la tête, ce que ça peut provoquer comme coup de marteau quand on est amoureux et qu'on est jaloux, hein. Mais dans cette notion de jalousie, il y avait aussi une nuance de méfiance et d'inquiétude. Et c'est ça qu'on a gardé, en fait, hein. D'où l'idée de souci.
Donc une expression qui existe telle quelle depuis le 18e siècle.
Depuis le 18e,
en fait.
Exactement. Mettre Martel en tête.
Et qui continue, d'être bien vivace puisque elle est encore très utilisée
oui,
aujourd'hui.
Je pense qu'elle est encore très utilisée. Alors, elle n'a rien à voir avec Charles Martel, hein. Sinon peut-être étymologiquement.
Alors, quand on se met Martel en tête, on se met aussi la rate au courbouillon.
Exactement. C'est une expression dont vous avez déjà parlé, je crois.
Absolument.
Et effectivement, de même, on se fait du mouron. Moi, j'aime beaucoup se faire du mouron. Où là aussi, l'expression est assez imagée, mais difficile à comprendre parce que le mouron, c'est une plante. Et dans l'argot, donc, il y avait le mouron blanc. Et donc, le mouron blanc, ça désignait au début les cheveux. Et donc se faire du mouron blanc, se faire des cheveux blancs, voilà. Et puis donc se faire du mouron, c'est se faire aussi du souci.
On se prend la tête.
On se prend la tête, c'est
ou
vrai.
Ou alors
c'est
par analogie,
courant.
On se prend le chou.
Exactement.
On se monte le bourrichon.
Oui, il y en a un paquet, effectivement.
Il y en a un paquet. Oui, c'est pas très bon signe d'ailleurs. On se fait un sang d'encre.
Exactement. C'est vrai. On se fait du mauvais sang, un sang d'encre, effectivement.
Pour dire qu'on reste quand même très tourmentés, nous pauvres hommes.
Mais oui.
On s'en fait tout un pataquès, on se fait des nœuds, quoi.
On se fait des nœuds. Alors qu'on pourrait se la couler douce.
Ah oui, si seulement. Alors, est-ce que vous savez qu'au Pays de Galles, on dit « il a un scarabée dans la tête », alors qu'en Angleterre, on dit « avoir une abeille dans le bonnet ». Ça m'a fait penser à avoir une araignée au plafond,
oui,
qu'on a chez nous.
Mais là, de nouveau, on retombe dans l'idée plutôt de folie. Hein. Il a une petite araignée au plafond.
Plus effectivement la folie que l'inquiétude. Au Panama, on dit « se manger la noix de coco », quant aux Pays-Bas, on se met des nids de souris dans la tête.
D'accord. Mais l'abeille, ça me fait penser aussi au bourdon, hein. C'est pas tout à fait l'inquiétude, c'est plutôt la
dépression.
Tristesse, la dépression, le blues, mais il y a quand même l'idée peut-être d'inquiétude malgré tout, donc on retombe un petit peu sur tous ces animaux qui sont pas forcément positifs, le cafard, le bourdon, voilà.
Ils nous veulent pas du bien, ces petites,
non, pas forcément.
Ces petites bêtes. Merci Julien Soulier d'être
Merci
venu nous rendre visite dans la puce et d'avoir su calmer le temps d'une chronique nos inquiétudes. Pour tous ceux qui désirent en savoir plus sur les expressions, je rappelle que votre ouvrage, Baillet au Cornaillet, 99 autres expressions, est édité aux éditions First. Merci encore et à très bientôt peut-être.
Merci
au
à vous Lucie, à bientôt.
C'était la puce à l'oreille de Lucie Bouteloup, Marine Planche, Thierry Magnier. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Ne les laissez pas lire, polémique et livres pour enfants, exposition à découvrir jusqu'au 1er décembre à la Bibliothèque Nationale de France. Et on voit dans l'exposition, je le signale, qu'il n'y a pas qu'en France que la littérature enfantine provoque des réactions des politiques. En 2018, Jair Bolsonaro, qui était alors candidat à la présidentielle au Brésil, donc n'avait pas vraiment apprécié la version brésilienne du guide du zizi sexuel de Zep. Merci à Guillaume Ploquin qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand et Marion Lestel qui m'ont aidé à la préparer. À demain et portez-vous bien. En hommage à